Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et bienvenue à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Au cours de cette première saison de notre émission, nous avons abondamment parlé de techniques de marche et de randonnées de courte et de longue durée, en forêt comme à la campagne, de même qu'en milieu urbain. Nous avons également reçu au micro de Radio VM plusieurs invités qui nous ont inspirés par le témoignage de leur vécu sur le chemin de Compostelle et au quotidien, et de la façon dont cette expérience de la marche avait contribué à leur bien-être. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un aspect plus pratique de la marche, soit le choix de destination, l'organisation d'une randonnée et le choix d'équipement. Notre guide pour cet épisode est une habituée de notre émission, Anne Saint-Hilaire, fondatrice du Centre La Tienda que j'ai rencontrée sur place récemment. Vous aimerez peut-être prendre des notes lors de cet entretien, mais si vous ne le pouvez pas, vous pourrez consulter le site centrelatienda.com pour tous les détails. Alors, bonjour Anne. Je dois dire au départ que c'est toujours un plaisir de vous retrouver au micro de Marcher vers le bien-être. Et aujourd'hui, de vous rendre visite au Centre La Tienda, c'est tout à fait spécial. Merci beaucoup de nous y accueillir.
Ça fait plaisir, Denis.
Anne, je le mentionnais un peu au début, j'ai eu le privilège de m'entretenir au fil des semaines avec de grands voyageurs qui nous ont raconté avec passion leur randonnée, leur pèlerinage, leur découverte. Et en votre compagnie aujourd'hui, j'aimerais me pencher sur un aspect dont on ne parle peut-être pas assez, et qui est très important pour une randonnée réussie, la destination.
Oui.
Comment on choisit une destination, ou peut-être vous-même, comment vous avez choisi vos destinations?
C'est une tellement bonne question. En fait, j'aime bien dire, entre le rêve et la réalité, il y a une date. Hein? Alors là, quand on se dit, OK, il y a une date établie, maintenant, où je m'en vais? Et quand on revisite nos rêves, bien, ici, on va rencontrer des gens qui partent pour le désert, pour faire des randonnées au Québec. Puis, si je donne mon exemple, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, j'ai rencontré une dame qui partait à l'aventure. Elle était jeune, en fait. Elle avait 18 ans, elle partait avec son sac à dos visiter l'Europe, faire les châteaux en France, entre autres. Et je me disais, waouh, quel courage! Et un jour, j'ai lu le livre de Paulo Coelho qui s'en allait faire Compostelle. Alors, dans mon cas, ça a été combinaison de ces deux éléments-là qui ont fait qu'un jour, je suis partie à l'aventure sur les chemins de Compostelle. Mais je pense que revisiter vos rêves et vous dire que c'est réalisable, ben, je pense que la destination, elle arrive avec une image, une revue, un film, une conversation. On est témoin d'un événement, puis allez go, allez-y, partez marcher.
Donc, ça vous arrive très naturellement. Vous avez un coup de foudre, vous avez une inspiration.
Oui, une inspiration, un appel, une image. C'est quand ça vient nous chercher dans le cœur, puis ça s'installe là pour longtemps, longtemps, et que ce message-là revient devant nous, ben je pense que c'est parce qu'il faut le réaliser. Il y a quelque chose à découvrir avec ce voyage-là. On ne sait toujours pas c'est quoi en avance. Puis on découvre au fur et à mesure qu'on marche.
Et c'est peut-être un souvenir d'enfance aussi qui remonte assez loin. Hein?
Définitivement, c'est vrai. Dans mon cas, à 4 ans, j'étais partie en Afrique.
Ah oui?
En fait, oui, je suis partie de la maison, j'ai pris mon petit sac, puis au bout de la rue, je pensais que j'étais rendue en Afrique. En fait, je savais que je n'étais pas rendue, mais que ça serait long. Alors, effectivement, ah oui, ça me rappelle ça.
Super. Mais alors, on a la destination, mais quelles autres considérations doit-on prendre compte pour s'assurer qu'on peut le faire, en fait, là, que ça répond à quelque chose, qu'on a les ressources, je ne sais pas.
Bien, je pense que déterminer le temps qu'on va prendre pour ce voyage-là, compte tenu de la destination que vous allez entreprendre, compte tenu de ce qu'il y aura à voir et à visiter, moi, je vous dirais, c'est important de se renseigner qu'est-ce qu'on a à voir. Parce que le temps qu'on a, des fois, s'il faut rajouter une semaine pour ne pas manquer un endroit super intéressant sur ce voyage-là, ben une semaine, c'est important dans un voyage d'une rando. Là. Il faut le considérer, ça. Bien sûr, votre forme physique, C'est certain que si vous avez des restrictions physiques aux jambes, aux genoux, si c'est grave, on ne considérera pas une randonnée dans le désert. Hein? Ça, c'est certain, ou dans les montagnes, le chic-choc ou peu importe. Alors, ça va être important. Par contre, j'aimerais vraiment attirer l'attention que tout est possible quand on prend en considération un voyage de rando en fonction de notre état physique. J'ai rencontré une dame qui venait de se refaire les deux hanches et elle a traversé l'Espagne en entier, étape par étape, des petites étapes. C'est possible de le faire. Il ne faut pas se dire « j'ai les genoux refaits, j'ai les hanches refaits, j'ai un problème de pied, je ne peux pas aller marcher ». Ça, c'est une fausse croyance. Il faut pas souffrir, c'est certain, c'est évident. Mais par contre, il faut mettre les moyens en place pour arriver à avancer. Une question souvent que j'ai, c'est la chaleur. Le monde, des fois, vont choisir ou ne pas choisir des destinations en fonction de la chaleur. Comme par exemple l'Espagne, je l'entends très souvent quand les gens, je leur demande « quand est-ce que vous prévoyez faire votre voyage de rando en Espagne? » Ah ben, ça serait probablement tôt au printemps
à l'automne,
ou à l'automne.
Oui, c'est
l'automne,
ça
revient tellement souvent. Et là, je demande « pourquoi? » Et là, ça répond toujours « j'aime pas la chaleur ». J'aime pas la chaleur, puis en Espagne, ça va être chaud. Puis là, je leur dis attention. Aujourd'hui, la planète est complètement bouleversée. Les deux derniers voyages en Espagne que j'ai fait au mois de juillet, il faisait froid. Et les deux derniers octobre où j'étais là-bas, il faisait canicule. J'aime bien dire, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. C'est quand est-ce que ça vous appelle de partir marcher?
Intéressant.
Ça, c'est la chose la plus intéressante, la plus importante que vous devez... si vos vacances sont l'été, ben OK, on s'organise en fonction de l'été. S'ils sont à l'automne, c'est parfait.
C'est drôle parce que j'avais la même impression. On parlait d'Espagne. Oui, effectivement, je me disais, j'irai jamais en Espagne au mois de juillet, au mois d'août, parce que moi, j'aime pas tellement la grande chaleur.
Ouais.
Mais vous dites qu'effectivement, avec les bouleversements climatiques, on peut s'attendre à tout.
Exactement. C'est sûr qu'il y a des secteurs de l'Espagne, si je pense à Séville, on ne va pas faire des randonnées dans le sud de l'Espagne l'été. Ça, c'est garanti qu'il on risque fortement d'avoir du 40, 45 degrés, des fois 50. Mais dans une région normale et régulière, donc c'est de se renseigner, mais de ne pas s'arrêter parce qu'on se dirait qu'il va faire trop chaud. C'est une erreur, à mon avis. Le budget, c'est sûr qu'on ne veut pas s'endetter. C'est parce que si vous vous endettez pour aller marcher, bien, la prochaine marche, elle risque d'être lourde.
Oui.
Alors, tu sais, comme on dit, quelqu'un qui n'a pas de dette et quelqu'un de riche, bien, ça va être quelque chose quand même à considérer. Par contre, si vous tenez absolument à aller faire un tel ou tel voyage de rando, bien, c'est de le planifier, de dire, OK, je pars dans 2 ans, dans 1 an, ou, tu sais, c'est là que ça va plus rentrer en considération. Et par mon exemple personnel, moi, j'en avais pas d'argent, je revenais d'un 2 ans d'arrêt de travail, bien, j'ai créé des objets que j'ai vendus et j'ai financé mon voyage.
Oui.
Et aujourd'hui, avec l'autofinancement, mon Dieu, les médias sociaux, c'est là... à souhait. Alors, moi, je vous dirais, arrêtez-vous pas, mais considérez-le en même temps, c'est certain.
Vous aviez une belle expression lorsqu'on préparait l'entrevue. Vous me parliez de choix de fleurs ou de feuilles, ou feuilles et raisins. J'ai trouvé ça très intéressant.
C'est vrai. Si on part au printemps, ben il y a des fortes chances que ça soit les magnifiques fleurs que vous allez retrouver sur le chemin. Si vous partez l'automne, ça serait les couleurs de l'automne, évidemment, qu'on connaît. Les raisins, si vous êtes dans des endroits où il y a des vignobles, ben, mon Dieu, on en profite pour en visiter, des vignobles. Et tout ça, ça a une relation avec l'ensoleillement. Moi, c'est une question que j'aime poser aux clients. Le printemps et l'été, c'est certain que la lumière est longue. les jours sont plus longs.
Oui.
Alors, on peut marcher beaucoup plus longtemps dans la journée, ce qui fait une différence que l'automne, bien, c'est sûr, le coucher de soleil arrive plus tôt. Et plus tard vous êtes à l'automne, bien, plus tard, plus tôt la lumière s'en va. Alors ça, c'est vraiment quelque chose à considérer dans votre choix.
Et c'est important parce qu'on parle toujours de voyage de randonnée. Donc, on veut absolument avoir les journées les plus longues peut-être pour effectuer une randonnée.
Ouais.
Et en jouir pleinement.
En jouir pleinement et aller voir le coucher de soleil sans avoir couru toute la journée pour aller le voir. C'est une autre belle façon de voir les choses.
C'est beau,
hein?
C'est beau. Est-ce que les gens choisissent une destination à cause de la langue, parce qu'ils connaissent la langue? On peut penser que certaines personnes choisiraient un pays sans connaître la langue. C'est peut-être plus difficile, hein, d'aborder la culture, les gens, et ainsi de suite.
Je pense que oui, ça peut freiner. Ça, c'est certain que si on s'en va dans un endroit où on ne parle pas du tout la langue... De là, puis moi, c'était mon cas aussi en 2008, quand j'ai fait, je ne parlais pas du tout espagnol et j'ai traversé l'Espagne à pied. Je me suis trouvée à manger ce que tu pouvais voir au bout du doigt quand tu le pointes. Tu sais, au restaurant, je vais manger ça parce que tu le vois.
Oui.
Tu ne peux pas communiquer aussi, et tu n'entends rien, tu ne comprends pas. Et c'est pas les voyageurs qui peuvent t'expliquer qu'est-ce que c'est ça, c'est les habitants. Et si tu ne peux pas parler avec les habitants, bien, mon Dieu, c'est difficile. Donc, moi, le conseil que je vous donne, ne vous arrêtez pas à ça. Regardez la destination de votre rêve. On se prépare avec le langage, comme j'aime bien dire. On parle de la pyramide de Maslow, la sécurité fondamentale. Apprenez ce que vous aimez manger le matin, par exemple, pour vous donner de l'énergie. Apprenez l'habitation, par où on se rend pour aller à tel ou tel endroit. La base pour que vous vous sentiez en sécurité. Apprenez à vous débrouiller avec le rudiment du voyageur. Et mon Dieu, vous allez faire des rencontres extraordinaires avec les habitants, avec les commerçants, avec les autres marcheurs. Mais je pense qu'il y a une petite préparation intéressante à avoir là-dessus.
C'est un peu provocant. Ça nous appelle à sortir de notre bulle, pour ainsi dire, et aller à l'encontre des autres.
Oui, exactement. Puis c'est une bonne façon d'apprendre une langue étrangère, je vais toujours le dire, c'est en chantant. Apprenez des chansons du pays apprenez les phrases par cœur et votre cerveau va l'emmagasiner.
Alors, Anne, il y a une grande question que l'on se pose toujours, pardon. On y va seul ou en groupe?
Oui,
Et vous avez beaucoup d'expérience dans les deux cas.
Oui, oui. Je suis partie seule la première fois. Et maintenant, je suis toujours en groupe parce que j'accompagne, en fait, je dis toujours en groupe, je fais des repérages aussi. Et mon grand plaisir, quand j'accompagne des groupes, c'est de leur faire comprendre qu'on peut être libre et en liberté aussi en groupe. Parce qu'on parle de voyage de randonnée. Alors, la randonnée, on ne marche pas ensemble toute la journée. Alors, dites-vous que c'est faisable. Oui, bien sûr, on déjeune ensemble, mais toute la journée, elle est en liberté. Et ce que j'aime des voyages de groupe, c'est que le soir, tu peux choisir de souper avec le groupe ou de ne pas souper. Mais on a besoin d'exprimer notre journée, de partager les bons, les mauvais coups, l'encouragement.
À la fin de chaque journée, au jour le jour.
À la fin de chaque journée, exactement, sans être obligé de recommencer toujours notre histoire de présentation. Mais seul, c'est extraordinaire aussi. Alors, partir seul, c'est fantastique. Vous êtes en aventure et vous rencontrez toujours des gens. Et si vous partez en groupe, de grâce, ne vous fermez pas sur votre groupe. Laissez-le ouvert, accueillez l'international que vous rencontrerez. On peut aussi organiser un voyage individuel, que vous ayez votre voyage, votre propre voyage à vous, qui soit organisé. C'est aussi une belle façon de le faire. Donc, on n'est pas dans le logistique, on est dans le lâcher prise, l'émerveillement, le laisser aller. On suit son chemin et c'est fantastique. Enfin, moi, je vous dirais, marcher seul, marcher en groupe, mais marcher. Allez avec votre inspiration de ce qui vous appelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon J'aime pas ça quand les gens disent « Ah non, c'est pas bon en groupe. » Non, si t'as besoin de ça, t'es une bonne personne quand même. Et à l'inverse, « Ah, j'aime mieux être toute seule. » Mais non, tu devrais... Allez-y à ce que ça vous appelle, mais sachez que tout est possible.
Le voyage individuel, ça m'interpelle un peu. J'aime beaucoup ou j'aime souvent être seul pour de longues randonnées. Parfois, j'hésite parce que, bon, ben, je dois choisir à tous les soirs, arriver avant pour avant que les restos ferment ou l'hôtel ou quoi que ce soit. Alors, c'est une formule à laquelle je n'avais pas vraiment pensé, mais c'est formidable si on peut organiser un voyage, mais en individuel. Comme ça, du départ jusqu'à l'arrivée, on prend compte de tout.
Oui.
Et comme vous dites... Ça laisse la place au laisser-aller.
Absolument. À la liberté.
À la liberté.
À la liberté de s'offrir des siestes en dessous d'un arbre, de relaxer, de ne pas craindre à où on va arriver. Puis prenez du temps dans la journée pour sortir du chemin. Tu sais, j'aime ça dire aux gens, tu sais, s'il y a un concert de violoncelle annoncé dans un tel village, allez-y, prenez un billet, puis restez là deux nuits, puis go. C'est ça la beauté du voyage, hein? C'est de découvrir là où on s'en va, mais dans toutes les facettes.
Il y a une autre formule qui est intéressante, c'est de rester à un endroit et de rayonner à tous les jours.
Voilà.
C'est-à-dire, on est un pied-à-terre en quelque part, et d'une journée à l'autre, on peut visiter une vallée, un petit village, et rayonner de 40, 50, 60 kilomètres, et parfois faire une nuitée ailleurs aussi.
Oui. Et on marche encore, hein, quand on rayonne, c'est de la marche.
Beaucoup, justement, oui.
Et si vous comptez faire un chemin de Compostelle, justement, offrez-vous des journées de repos. Nous, on appelle ça comme ça, de repos, où on va encore marcher, on ne s'arrête pas. Et de là, on va rayonner. Donc, dans les grandes villes, allez visiter ces villes-là. Donc, votre corps va quand même marcher sans le gros sac à dos et sans toute la contrainte. Mais oui, on marche longtemps, des semaines, mais on s'arrête une fois au moins par semaine. Un, ça repose un peu le stress du corps et on continue quand même de marcher. Alors, c'est extraordinaire.
Alors, Anne, nous avons choisi notre destination. Nous sommes prêts à partir, mais pas tout à fait. Il y a encore quelques petits préparatifs à faire. Alors, nous prenons une courte pause et on revient avec la préparation. Alors, nous sommes de retour avec Anne Saint-Hilaire. Nous nous préparons à notre grande randonnée. Et Anne, j'ai pensé que parmi les préparatifs, il y avait l'aspect physique, des marches préparatoires. Encore faut-il se mettre en forme de ce côté-là, n'est-ce pas?
C'est certain. Puis comme j'aime bien dire, avant de partir faire un voyage de rando, ben on va aviser notre corps qu'on va entreprendre de lui faire... entre guillemets, subir un voyage de rando longue durée.
Aviser notre corps.
On l'avise tranquillement.
Ah, c'est chouette.
Oui, puis on essaie de ne pas l'oublier qu'il va quand même avoir de l'endurance, de la longue durée, du mauvais temps. On ne dit pas du mauvais temps, mais tu sais, il peut pleuvoir, il peut faire froid, il peut avoir des côtes, des descentes. Fait que là, on le prépare. En fait, c'est ça qu'on devrait dire, marche préparatoire. J'aime dire aux clients, mettez un X sur le calendrier, puis dites-vous, cette journée-là, je m'en vais marcher. Et là, vous ouvrez le rideau le matin, puis oh boy, il y a la grosse pluie. Alors, vous dites, merci, je vais voir comment mes souliers résistent à l'eau, comment est-ce que je me comporte dans une pluie battante, et combien de temps ça prend mon linge à sécher. Ah, il fait 35 degrés, quelle vitesse je vais avancer. Alors, c'est important de se préparer. On va y aller progressivement, bien sûr. On peut faire une sortie par semaine, deux sorties par semaine. On peut monter le kilométrage, le descendre, aller faire des côtes, des plats, des longues durées, de l'asphalte, des montées. Essayer d'aller chercher tout ce qu'il pourrait y avoir comme dénivelé ou comme surface dans le style de voyage de rando que vous aurez choisi de faire. C'est bien important.
Et est-ce que ces marches de préparation se font en groupe ou seul? J'imagine que c'est motivant de faire en groupe aussi.
Tellement. Puis c'est ça qu'on aime faire ici avec la tienda. Les voyageurs le disent, waouh, on a rarement des sorties en groupe avant même de partir en voyage. Alors oui, c'est motivant. Aller chercher, il y a des groupes, des clubs de marche. Essayer d'aller voir, même donner rendez-vous à quelqu'un à plusieurs kilomètres, dire « OK, on s'en va dîner, on se rencontre à telle place et on recontinue. » Tu sais, on part pas ensemble, mais on se retrouve à peut-être 10 kilomètres, puis on trouve un endroit pour dîner ou des trucs comme ça. Fait que oui, et c'est sûr qu'avec cette pandémie qu'on vient de vivre, trouver la motivation de sortir, c'est plus difficile. Je l'entends régulièrement.
Ah, c'est plus difficile? J'aurais pensé que les gens sont plus portés maintenant à sortir, à
marcher. Il y a eu un isolement qui s'est créé, et cet isolement-là s'est imprégné dans l'habitude des gens. Et ça a tellement été confrontant de « oui, on peut sortir, non, on n'a pas le droit », pas sortir de région ou des choses comme ça. Oui, un genre de petite explosion de liberté qu'on vit actuellement. Là, au moment où on se parle, on est au mois de mars 2022. Mais ça a été difficile. Le monde a pris plus de poids aussi dans la COVID, c'est la bedaine COVID. Alors, c'est un petit peu plus un engrenage. Je crois que l'été 2022 va faire énormément de bien aux gens pour repartir faire la rando. On le ressent beaucoup, l'effet psychologique. Les dépressions, mais ça ne part pas du jour au lendemain. Alors, c'est important de marcher.
Il y a une autre question très intéressante. La marche afghane, nous en avons parlé au début de la saison avec Patrick Auger, qui nous a initié à la marche afghane. Et vous enseignez aussi, en fait, vous avez des ateliers de marche afghane. J'ai pensé qu'on pourrait en parler parce que c'est un élément que j'ai découvert et qui m'apparaît très important pour pouvoir marcher longtemps sans se fatiguer. Oui. J'en ai fait l'expérience moi-même et je sais que c'est tout à fait pratiquement magique. Là. J'ai marché parfois 30 kilomètres et je n'étais pas fatigué, vraiment. Alors, comment ça fonctionne? Comment vous décrivez la marche afghane? Vous avez une façon tout à fait particulière.
Oui. En fait, c'est effectivement de l'énergie, la marche afghane. Et bon, étant musicienne, quand je fais des formations, j'ai mis un peu cette image-là, moi. Je pourrais l'appeler la marche symphonique de tous nos sens. En fait, je le résumerais. Oui, c'est beau. Hein? Je ne sais pas si vos auditeurs, parmi vous qui nous écoutez, avez-vous déjà assisté à un concert où il y avait un orchestre? On sait qu'un orchestre, avant que le chef d'orchestre arrive, il y a la cacophonie complète. Tous les musiciens... Puis là, on s'assoit, on s'installe tranquillement dans le fauteuil, puis là, c'est la cacophonie, et tout d'un coup, il y a comme un silence. Le chef d'orchestre rentre dans la pièce, et ça fait... et là, il lève les bras, et ça part en harmonie. Bien, je trouve que c'est exactement ça, la marche afghane. C'est que quand vous décidez de faire entrer votre chef d'orchestre dans votre tête, ça va coordonner tous vos sens, la respiration avec les pas. Tout devient harmonieux, ce qui fait qu'on se concentre sur la respiration, les pas. Parce que la marche afghane, c'est un peu ça, c'est de coordonner la respiration avec les pas. Et ça va faire entrer de l'air dans votre corps, dans vos poumons. Et on sait qu'avec l'air, c'est ce qui donne de l'énergie. L'autre exemple que j'aime donner comme exemple, si vous essayez de partir un feu de camp, puis que vous mettez trop de papier, trop de bois, il n'y a pas d'air, bien ça ne marche pas. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous penchez, puis vous essayez de vous souffler pour amener de l'air, parce que c'est ça qui donne l'énergie.
Oui.
Donc, notre corps, c'est la même chose. Et les athlètes, on a eu les Olympiques dernièrement, puis ils en parlaient. C'est de rentrer de l'oxygène dans notre sang pour nous donner de la propulsion et de l'énergie. Donc, la marche afghane, c'est ce que ça crée automatiquement dès que vous venez mettre une symphonie bien coordonnée, très harmonieuse dans votre corps. C'est magique.
Est-ce que la plupart des gens avec qui vous marchez sur de longues randonnées marchent bien? Est-ce qu'ils synchronisent leur pas avec leur respiration? Est-ce qu'ils apprennent? Ou est-ce que, justement, la plupart ne le font pas, mais auraient avantage à le faire?
Avantage à se le rappeler, parce que nous, notre groupe, on donne la formation, elle est incluse dans nos voyages, et on en fait beaucoup la promotion tout le temps. Dès qu'on peut, on va parler de la marche afghane. Et moi, en tant qu'accompagnatrice, quand je vois des clients devant moi qui jasent, puis là, je les vois arrêter de jaser, vous, là, ils avancent, vous, ça se propulse. C'est, je vous dis, l'essayer, c'est l'adopter. Et on montre même le pied, comment le déposer pour avancer davantage. Je vous dis, ça devient comme, waouh, j'ai cette capacité-là à l'intérieur de moi. C'est magnifique. Parce que oui, vous l'avez tous et toutes, cette capacité-là d'avancer plus facilement, plus longtemps sans se fatiguer.
Et parfois, on le fait intuitivement aussi. Plusieurs personnes qui m'en ont parlé et me disent, bon, mais je l'ai fait. Peut-être pas de la même façon, de la bonne façon, mais on le fait souvent.
Bien, je ramènerais ça à un musicien qui ne jouerait pas dans un band ou dans un orchestre. Il est capable de jouer, mais dès qu'il se joint à un orchestre, ah, attends, il y a des petites règles à suivre. On est en fa dièse, en fa majeur, où il faut quand même avoir une certaine connaissance de certaines théories pour vraiment pouvoir dire, OK, je pratique la marche afghane.
Je reviens à la langue, ou la langue du pays. Oui. Vous mentionnez souvent qu'il est tout à fait approprié de connaître les rudiments d'une langue pour saisir un petit peu la culture, le quotidien.
Ah,
c'est très utile, hein?
Oui, en fait, la culture, elle est tellement importante. La culture, là où vous allez voyager, je veux dire, oui, il y a la langue. Il faut se faire comprendre, il faut essayer de comprendre. Au niveau culturel, exemple, si on est en Espagne, j'aime bien dire, je vous donne tout de suite une information intéressante. Quand on rentre dans un commerce en Espagne, on dit « hola ». C'est nous, le client, qui devons dire « hola ». Et là, les personnes vont arriver et vont nous servir. Alors, tandis qu'ici, au Québec, ben, c'est l'inverse. Le client rentre et c'est ceux qui travaillent qui vont dire bonjour. Là-bas, c'est différent. Il y a la culture. Apprenez les rudiments culturels. Tu sais, avez-vous le droit de mettre des jupes? Est-ce que, tu sais, on est en train de travailler un voyage en Tanzanie. On nous disait faut pas apporter de noir, les vêtements noirs. Moi, je vais avoir un petit peu de problème parce que j'ai beaucoup de noir, parce qu'il y a des moustiques. Alors, la religion, tu sais, il faut respecter. On n'arrive pas avec notre culture dans une autre culture. On respecte la culture qui est là-bas. C'est très important. Et encore là, ben, les rudiments de la langue vont aussi nous faire comprendre. Si quelqu'un essaie de nous dire quelque chose, tu sais, t'as pas le droit de jupe, ça serait peut-être intéressant de le savoir, hein, comprendre la chose. Alors oui, la langue, la sécurité fondamentale, la culture, l'histoire, la géographie, il y a tellement de choses à se préparer avant de partir.
Et surtout, si on part pour une longue randonnée de plusieurs semaines, ben, en fait, même 2 semaines, 3 semaines, de comprendre la culture, de vivre avec le peuple, en autant que ce soit possible, évidemment.
Ouais.
Donc, on peut avoir des échanges qu'on n'aurait pas autrement.
Et ça, et la préparation nous met déjà en voyage. Hein. Quand on commence à lire, c'est comme si on est déjà en train de voyager. Parce que le voyage, c'est pas nécessairement quand on est arrivé à notre point de départ, à notre gare ou à notre aéroport, c'est déjà en amont. Qu'on vit déjà notre préparation de voyage.
Alors, un dernier élément, c'est le bilan de santé, parce qu'encore faut-il bien connaître sa santé, ses forces physiques et peut-être les petits éléments qui font en sorte qu'on ne pourrait pas tout à fait profiter de notre voyage. Donc, bien se connaître au niveau santé. Ouais. Je pense que vous le recommandez.
Oui, bien sûr. C'est sûr que vous n'irez pas faire le Kilimanjaro si vous avez un problème important cardiaque. Hein. On a un voyage en bateau à voile, c'est la même chose. Il faut avoir un bon cœur. J'ai eu des clients qui faisaient de l'hémophilie. Ben, vous avez le droit de marcher. Il faut juste qu'il faut prendre en considération. J'ai eu, mon Dieu, oui, des hanches refaites, des ablations. Limitez-vous à la limite. Tu sais, les Paralympiques commencent là, bientôt, là. Mon Dieu, hein? Oui. Faire du ski alpin avec une jambe, c'est une raison ou une excuse de ne pas faire du ski. Ça aussi, c'est important de le considérer. Alors, se mettre en forme, faire attention, voir qu'est-ce qu'on est capable de faire physiquement. Mais il y a quand même tellement de possibilités de voyage, de rando avec des limitations. Je vous dis, il ne faut pas s'empêcher. Allez-y à votre rythme et choisissez la destination qui vous permet. Si vous êtes capable de faire 5 km par jour, là, puis pour vous, là, c'est le maximum, ben bravo si vous le faites. Vous faites 100% de ce que vous êtes capable de faire. Si vous faites 15 km, bravo, c'est ce que vous êtes capable de faire. 25, tant mieux si vous faites 30. Ceux qui font 30 et 35 par jour, je vous demande juste, est-ce que vous prenez le temps aussi de prendre le temps de voir où vous êtes?
Oui, oui, oui.
Alors ça, c'est toutes des nuances, mais aller marcher, c'est important, c'est super important.
Alors Anne, nous sommes presque prêts à partir, mais il y a toujours le sac à dos et ce que l'on met dans le sac à dos et l'équipement. Alors on prend une courte pause et on voit justement à ce mystérieux sac à dos. Ouais. Nous sommes toujours en compagnie de Anne Saint-Hilaire. Alors Anne, on va parler d'équipement, la dernière portion de notre émission, et vous avez une citation que je trouve délicieuse, merveilleuse, pour nous présenter ce volet de l'émission.
On aime tellement ça dire. On part d'abord avec l'utile, puis on garde le nécessaire. Au fil du temps, on ne garde plus que l'essentiel, et c'est largement suffisant.
Et vous dites ça avec ou suite à des années d'expérience, donc oui, vous l'avez vécu.
Oui, je l'ai vécu. Je suis partie tellement mal équipée en 2008 sur le chemin de Compostelle que j'en ai fait ma mission de vie. Quand on part faire un voyage de rando longue durée, on a malheureusement tendance à penser à porter toutes les « en cas que » et les insécurités et les peurs parce qu'on vit dans des maisons, des logements, des appartements, peu importe, avec des garde-robes, avec des tiroirs remplis de « en cas que », ben, tu sais, on l'a porté de la main. Quand est-ce que vous vous servez de tout ça? C'est là la question. Alors, c'est certain que si on part en hiver, on a besoin d'un tel équipement. Si on part le printemps, été, automne, c'est autre chose. Mais vous marchez le jour et le soir, ben, vous socialisez. Hein? Vous soupez, vous prenez votre douche, vous socialisez ou vous vous reposez, tout dépendant de votre destination. Alors, le jour, ça vous prend la marchandise pour marcher et le soir, c'est pour relaxer. Le jour, c'est la même marchandise que vous avez mis hier et le soir, c'est la même chose que vous avez mis la veille. C'est drôle parce que j'en ai fait mon mode de vie et ma petite fille, en fin de semaine, me disait, parce que je me surnomme Abuela, Abuela qui veut dire grand-mère, elle disait, Abuela, tu mets toujours la même chose. Je dis, ben oui, j'ai pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin de temps quand on va faire un voyage de rando, je vous le dis, c'est inutile.
Par contre, on a besoin de bons souliers, de bonnes bottines de marche.
Voilà.
C'est toujours la grande difficulté pour plusieurs personnes. Ouais. Comment je choisis les bottines de marche?
Alors, ça ne nous prend pas grand-chose, mais ça nous prend de la qualité. Et ne négligez jamais la qualité pour un voyage de randonnée. Les souliers, c'est votre base. Les souliers ou les bottes, selon la saison que vous allez partir. Nous, on est vraiment de l'école des souliers de rando. Pas des bottes, surtout si vous êtes l'été. C'est pas utile. Les bottes, on va les utiliser vraiment l'automne tard, l'hiver, évidemment, au printemps très tôt. Si vous pensez qu'il va y avoir de la neige ou continuellement de la pluie, c'est sûr. Mais sinon, si c'est un voyage de rando longue durée, normal, que vous ne traversez pas des montagnes avec des roches ou un peu...
Oui.
Moi, je vous dis, informez-vous de la destination que vous allez faire. Informez-vous avec les gens qui l'ont fait, bien sûr. Ça va être la meilleure chose. Je vous dirais, dans ça, le plus important, c'est la semelle.
Mm-hmm.
Choisissez un soulier ou une botte avec une excellente semelle, avec des bonnes grippes, que si vous êtes dans une journée très chaude et sablonneuse, votre soulier va bien adhérer aux roches, par exemple. Ça ne glissera pas et surtout qu'elle ne s'usera pas prématurément. J'en ai eu des souliers de marche, là, je suis rendue à peu près à 4000 km là, sur les chemins de Compostelle, puis une chaussure, mon Dieu, elle n'a même pas toffé. Elle n'a même pas toffé 3 mois. Puis j'étais sur le voyage à la fin, parce que 3 mois de chaussures, c'est pas long. La semelle était complètement usée. Alors, prenez une bonne chaussure, une bonne semelle, un demi-point plus grand à un point selon la marque de la chaussure. Parce que vous enflez, on enfle des pieds, des mains, de la tête, ne l'oubliez pas. Alors ça, c'est super important. Et... pour nous, on dit oublier les chaussures imperméables si vous êtes printemps, été, automne. C'est très chaud. Alors, ça, c'est bien important. Si vous voulez transpirer des pieds, là, allez dans les marques imperméables, là, puis c'est garanti que vous allez avoir chaud. Il pleuvrait pas du tout que vous allez avoir les pieds toujours mouillés. Il pleuvra une journée, ben oui, vous auriez été étanche, mais le reste du temps, c'est trop chaud.
Et vous parlez souvent de lassage des souliers.
Oui. Alors donc, une bonne chaussure le lassage, les pieds, la botte, le confort, c'est super important. C'est comme la base de votre randonnée. Alors, si vous descendez une côte et que vos souliers sont mal attachés, vos orteils vont se retrouver à la pointe de vos chaussures. Et à l'inverse, en montant, c'est le talon. Alors, il y a des chances que vous ayez des ampoules ou des blessures par rapport à ça. Alors, c'est super important de bien lasser. Il y a des techniques.
Pour bien serrer.
Oui. Pas bien serrer, mais que le lassage ne se défasse pas et que votre pied soit bien, bien assis dans votre chaussure. J'aime donner l'exemple des pédales de vélo. Tu sais, on a des clips ou des cale-pieds. Oui. Alors, vous voyez l'image, une chaussure bien attachée sur notre pied, c'est comme si on a le pied dans un cale-pied ou des pédales à clips. La chaussure suit le pied. Je ne transporte pas ma chaussure. Mmh. La chaussure me suit quand je lève le pied. C'est important. Allez-y aussi avec des sandales de repos. Offrez-vous une liberté de temps en temps à vos pieds. Ça va faire beaucoup de bien. Alors, vous vous arrêtez parce qu'on ne marche jamais nu-pied par terre. Je dis jamais. Il y en a qui le font. Là.
C'est-à-dire pour des randonnées.
Pour des randonnées. Il y en a qui sont quand même... c'est tough, hein? Ils marchent nu-pied. C'est quand même assez rare. Mais essayez d'éviter de vous retrouver le pied à terre parce qu'une coupure d'un caillou ou d'un morceau de vitre ou peu importe, vous vous blessez le pied et voilà, votre voyage est arrêté.
Et les sandales de repos, c'est en fait le soir en arrivant pour se reposer
entre
carrément.
Autres,
on enlève nos chaussures de marche.
C'est ça. On visite la ville où on est ou le quartier ou tout dépendant où vous êtes. Et ça va aussi vous servir d'aller à la douche. Pour si vous êtes éventuellement dans des auberges de jeunesse ou de pèlerins, c'est bien important, on ne marche pas nu-pied.
Alors, il faut prendre soin de nos pieds. Vous avez des petits trucs, des suggestions de ce côté-là aussi.
Oui. Alors, vos pieds, comme dirait ma mère, les pieds et les dents, c'est bien important. Et surtout en randonnée. Alors donc, moi je vous dirais, si vous avez un objectif d'un voyage de randonnée pédestre dans l'année, dès le printemps, vous devriez aller faire un tour chez un podologue pour faire un soin de pied. Enlever la corne de vos pieds, c'est très important.
Et pourquoi?
Parce que si vous développez une ampoule en dessous de la corne, c'est comme une bulle d'eau en dessous de la glace. Tu la vois, mais tu ne peux rien faire. Okay? Et ça, ça devient très douloureux. Alors, un bon soin de pied. Vous enlevez la corne. Vous commencez à mettre une crème préparatoire qui renforce la peau de vos pieds. Ça aussi, c'est important. Dès que vous avez fait votre soin de pied chez le podiatre ou le podologue. Ensuite, la crème. Quand vous allez partir le matin, nous, ce qu'on conseille, c'est de mettre un gaz qui s'appelle Hypafix. C'est un petit gaz tout mince, respirant, que vous allez enrouler sur vos orteils qui se frotteraient ensemble, ou si vous avez un oignon, tu sais, les chers oignons. On va mettre là, on va en mettre peut-être au talon, on en met là où ça va blesser. Je ne suis pas de l'école des doubles chaussettes ou des sous-bas, parce que ça fait un bas par-dessus l'autre bas. Ce qu'on veut, c'est vraiment une chaussette qui va se maintenir sur le pied, qui ne bougera pas, qui est respirante, qui est coussinée, cintrée. Ça, c'est un monde, hein, le technique des vêtements de rando. Mais tout le monde est d'avis de dire que le mérino va rester la meilleure fibre pour autant les chaussettes que les bobettes, que les soutiens-gorge, que les chandails. C'est une fibre naturelle, thermorégulateur, antibactérien, qu'on n'a pas besoin de laver à tous les jours. Ça, c'est le fun. On aime mieux prendre l'apéro qu'à aller faire du lavage. Surtout en randonnée. Alors donc, le mérino, ça va changer votre expérience. Changez-les, vos chaussettes. Changez-les dans la journée. Nous, on dit aux heures, maximum aux 2 heures. On change nos chaussettes, on prend une pause, on étire notre corps, on masse nos pieds, on relaxe, on les change, et là, vos pieds sont tellement contents.
Donc, on ne marche jamais toute la journée les mêmes chaussettes.
Je suis certaine que
la plupart
vous
des
avez
gens le font, probablement.
Oui, tellement, on le rencontre souvent. Puis, on le sent, l'humidité dans nos pieds, c'est normal. C'est logique, le soulier, il est fermé. Alors, prenez l'habitude de changer vos chaussettes et de masser vos pieds en même temps quand vous vous arrêtez. Ça va faire une énorme différence. Votre corps va être très heureux de ça.
Un dernier petit truc avant de passer au mystérieux sac à dos. Les ampoules, vous les traitez d'une façon tout à fait particulière que j'aime beaucoup. C'est un bon truc là pour nos auditeurs.
Oui. Alors, vos ampoules, en fait, c'est que si vous n'avez pas pris soin de vos pieds, vous aurez peut-être des ampoules. Mais comme nos clients le savent, c'est plus les autres qui ont des ampoules. Alors, n'arrachez jamais la peau de vos ampoules. Ne mettez pas de gaz dit ampoule qui est très collant et que quand vous allez mettre sur l'ampoule et que vous allez enlever le gaz, ça va arracher la peau de l'ampoule. Nous, on parle d'une aiguille, un fil blanc. Blanc parce qu'il n'y a pas de teinture, et vous allez désinfecter, vous allez transpercer l'ampoule avec l'aiguille et le fil. Vous allez couper le fil à peu près à 1 cm de chaque côté de l'ampoule, et voilà, c'est réglé. Libération totale. Donc, vous venez d'installer un drain dans votre ampoule.
Ah oui. Oui, oui, oui.
Tout simplement.
Et c'est pas douloureux non plus de transpercer l'ampoule.
C'est bien moins douloureux que de marcher avec une ampoule. Une ampoule, il faut la traiter. Si vous ne traitez pas vos ampoules quand vous marchez, vous hypothéquez royalement votre chemin. Faites pas ça. Faites pas ne pas traiter vos ampoules, je vous le dis. J'en ai tellement vu là, sur les chemins. Alors, on prend soin de ses pieds, c'est important.
Alors, Anne, nous sommes presque prêts pour le grand départ. Il nous reste, encore une fois, le sac à dos et certains petits éléments de notre équipement. Nous y revenons après la courte pause. Thank you. Alors, nous sommes de retour avec Anne Saint-Hilaire pour le dernier volet de notre épisode sur l'équipement. Et Anne, nous parlons de sac à dos. Comment choisir, c'est toujours embêtant un peu, comment choisir un bon sac à dos?
C'est aussi important que les souliers, le sac à dos. Un sac à dos, c'est très personnalisé, ça devient votre ami. Il faut qu'il vous fasse comme un gant, qu'on va dire. Alors, un sac à dos, ça se choisit selon la distance entre vos épaules et votre bassin. Ça, c'est pour la longueur, parce qu'il y a différentes... En fait, il y a différents formats de sac à dos. Ensuite, l'autre point très important, c'est le volume. Plus vous allez prendre un grand sac à dos, plus vous allez mettre des « en cas que ». En cas que, il fasse froid, en cas que...
La nature a horreur du vide.
Et voilà. Alors que, à l'inverse, si votre sac à dos, il n'est pas si grand, là, c'est le côté débrouillard qui rentre. Ah, en québécois, je m'organiserai bien. Ça rentre plus. Alors, c'est là que ça va faire une énorme différence. Alors, c'est très, très important de connaître à quoi servent toutes les sangles de votre sac à dos. Vous devriez le connaître avant de partir. Quand vous allez être sur votre sentier de rando, vous le connaissez à 100 %. Okay? C'est pas sur le chemin que vous devez commencer à comprendre l'ajustement de votre sac, à quoi sert tel petit accessoire. Vous devriez le savoir avant. Alors, faire un bon ajustement et aussi, quand on achète un sac à dos, on doit toujours, toujours l'essayer avec de la marchandise à l'intérieur, avec un poids le plus réel possible. Mm-hmm. Nous, on met du vrai matériel, nos sacs sont prêts à partir. Là. C'est les vrais vêtements placés au bon endroit. Si vous mettez des livres ou du sable à l'intérieur, ça descend dans le bas du dos.
Oui.
Et ce sac-là, c'était peut-être le vôtre, mais parce qu'il était mal ajusté, vous ne l'avez pas acheté. Alors, je dirais, le volume, la grandeur et bien l'équilibré, c'est super important. Et le lourd va le long du dos. C'est là qu'on vient placer la marchandise le long du dos. On va compresser ce qu'on va mettre dans le sac et on va faire un avec le sac à dos. C'est super important. Alors, ça, je vous dirais, c'est votre ami fidèle. Puis donnez-y un nom à votre sac. Il va être votre compagnon de voyage.
Oui, il va prendre soin de vous si vous prenez soin de lui.
Voilà.
Maintenant, on ne parlera pas de tous les vêtements qu'on apporte avec nous, mais y a-t-il un principe de base pour les vêtements? Couleur, vous parliez tout à l'heure, selon
la destination. L'Afrique, oui. On enlève le noir, mais les autres destinations où le noir, c'est aucun problème. Le moins possible, définitivement. Optez pour les vêtements qui touchent votre haut du corps en multicouche, en mérino. Ça, c'est aussi très important. Puis de bien les placer. Ça va être une chose très importante. Tout ce qui rentre dans un sac à dos devrait être compressé. Il y a des vidéos qu'on a fait d'ailleurs sur comment on roule un vêtement, comment on va le placer. Et là, on est en onde. Je vais vous faire un peu gricher des oreilles. Imaginez que vous êtes en train de dormir dans une auberge de jeunesse ou une auberge de pèlerins et que la personne à côté de vous place ses vêtements dans...
Ah oui, oh là là,
ça, un sac de plastique. Ne soyez pas cette personne-là, s'il vous plaît. Alors, j'ai créé des sacs de rangement. Prenez un sac en tissu, pas en tissu, mais en mèche qu'on appelle, parce que ça respire. Mais de la mèche qui est compressée, en fait, qui ne s'étire pas. Ce n'est pas pas des sacs de lavage là, qu'on ne trouve pas cher. Là. Ça s'étire, ça se déchire. Alors, ce que nous, on a, c'est vraiment des sacs qui ne s'étirent pas et qui compressent les vêtements et qui nous permettent de voir notre inventaire aussi. Parce que ça se peut que mon chandail soit sur la corde à linge en train de sécher. Puis quand je fais mon sac à dos, si vous n'êtes pas rangé, je vous dis, il y a le chandail à 100$, il va rester dehors. Puis là, oh, shoot! Alors donc, développez un toc avec vos vêtements, avec tout votre équipement en fait. Développez le toc de toujours placer les choses au même endroit.
Ah oui.
Ça facilite de faire le sac à dos le matin. surtout ceux qui font, exemple, Compostelle, vous allez changer d'endroit tous les jours. Et bien, un voyage de rando longue durée, c'est ça, hein, on change d'endroit tous les jours. Donc, si vous replacez les choses au même endroit, vous ne vous égarez pas, vous n'oublierez rien et vous allez être en vacances cérébrales aussi. Alors, ça, c'est tellement important.
Il y a deux éléments intéressants que vous avez soulevés pendant notre discussion juste avant l'émission. Le sac d'hydratation,
oui,
qui nous permet de boire davantage que si nous avons que la bouteille avec nous. C'est intéressant.
Oui, parce que la bouteille, elle est placée sur le côté du sac à dos. Et là, c'est facile d'aller chercher la bouteille, mais très difficile, voire impensable, de la remettre dans votre sac à dos. Alors, dans la pochette du sac à dos. Ce que vous devriez faire, si vous avez une bouteille, c'est enlever votre sac à dos, remettre la bouteille ou demander à des gens à côté de vous. Et là, à un moment donné, ben, on devient comme un peu gêné de demander quand on a soif. Parce qu'un voyage de rando longue durée, vous devez vous hydrater. C'est super important. Ne négligez pas ça. Les tendinites, la fatigue, les hits. Là, vous voulez que votre voyage soit un hit, mais pas une tendinite. Alors, c'est très important. La déshydratation, c'est majeur. J'ai été témoin dans un groupe de quelqu'un qui l'avait subi. Vous ne voulez pas vivre ça. L'hydratation, le sac d'hydratation, le mot le dit, c'est pour s'hydrater au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin. Une petite gorgée, une petite rafraîchir la bouche, et ça rentre tranquillement dans notre corps, et ça rentre dans le corps. La bouteille, vous montez la côte, puis là, vous dites, rendu en haut, moi, t'en prendre une gorgée, ça, t'sais. Et là, vous en prenez une très grande, et vous remplissez votre vessie, puis vous êtes en train de faire pipi.
C'est de s'hydrater au fur et à mesure,
oui,
progressivement.
Oui, très, 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 très important.
Anne, il nous reste une minute ou deux, et il y a une question que je me pose, que nombre d'auditeurs et auditrices se posent sûrement, les fameux bâtons. Oui. C'est nécessaire, lesquels on doit prendre, quelle est la différence entre les différents bâtons?
Alors, ce n'est pas un style, marcher avec des bâtons, c'est, à mon avis, une nécessité. Comme je disais tantôt, on engourdit des pieds, des mains et de la tête quand on fait un voyage de rando longue durée. Alors, les mains, je pense que c'est les premières à engourdir si on n'a pas de bâton. Alors, ça, c'est parce qu'on a un mouvement de va-et-vient des bras. Et là, on a tendance à mettre les mains sur les bretelles du sac à dos, les coincer. Alors, ça, c'est de là, on va enlever tout ça. On va prendre un bâton, on le met à 90 degrés de notre corps quand on l'achète. Et ça va vous servir pour monter les côtes parce que votre sac à dos tire par en arrière quand vous montez. Et quand vous descendez, ben là, ça pousse sur les pieds, sur les genoux. Vous pouvez glisser à cause de ça. Alors, donc, les bâtons vont vous freiner un peu, vont vous aider à traverser un petit cours d'eau qui s'est improvisé avec la pluie, un endroit qui est glissant. Ça va vous permettre de lever la tête quand vous marchez. Mon Dieu, il y a tellement de belles choses à voir dans les airs. C'est pas le sol que vous voulez voir quand vous voyagez, hein. Alors, donc, les bâtons vont vous permettre de lever la tête, d'être en sécurité, d'enlever l'engourdissement. C'est essentiel, les bâtons. Alors, on en veut des légers, le plus léger possible. Les plus compacts possibles pour rentrer dans le sac à dos, surtout si vous avez une destination outre-mer ou vous devez prendre un avion, donc on veut rentrer vraiment le bâton. Avoir une bonne grippe et une bonne dragonne, ça, en principe, les personnes dans les magasins vous l'expliquent. Et les embouts qui empêchent le bruit du toc-toc-toc-toc-toc quand on marche. Ça aussi, c'est super
qui peut être ennuyant pour soi-même et surtout pour les autres.
Ah oui, tellement. J'ai déjà laissé passer 15 minutes à un groupe là, parce que je ne pouvais plus entendre leur toc-toc.
Alors, Anne, on pourrait en parler encore longtemps. Oui. Vous nous avez offert une foule de renseignements très intéressants, très pertinents, très utiles pour la marche de longue durée. Sûrement que nous avons d'autres questions auxquelles nous pourrons trouver une partie des réponses sur Centre Latienda.com, votre site, oui. centrelatienda.com.
Exactement. Et on aura des dates de formation parce qu'on donne des formations d'une journée sur tout ça. On est allé vraiment sur vol. Alors oui, surveillez les dates et on veut vous mettre en marche le plus léger, le plus agréablement possible. Et tout le monde peut marcher à son rythme. C'est la santé mentale, c'est le mieux-être, c'est physique, c'est créer un monde meilleur par la marche.
Alors Anne, merci beaucoup et nous vous souhaitons de très longues randonnées pour de très longues années à venir.
Merci Denis, merci
infiniment. À bientôt.
À bientôt.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi écouter l'émission en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions qui y sont archivées. Aussi sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez des descriptifs et références pour chaque épisode. Je tiens à remercier notre invitée d'aujourd'hui, Anne Saint-Hilaire, que vous pouvez rejoindre grâce au site centrelatienda.com. Je remercie aussi notre collègue technicien Xavier Gauvin pour avoir habilement assuré le montage de cet épisode. Et comme toujours, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec une pensée. Il s'agit en fait du titre d'un livre de la romancière italienne Susanna Tamaro. Va dove ti porta il cuore. Va où ton cœur te porte. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.